De vive voix. De vive voix, spécial JO, Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans De Vive Voix en mode culture et sport. Durant toute cette période des JO, nous conjuguons le muscle et la plume, la culture physique et la culture tout court. Pour ce cinquième épisode, notre invité, c'est l'animateur de télé Michel Drucker. Bien avant les variétés, sa première école fut le journalisme sportif. Michel Drucker va nous raconter sa passion pour le cyclisme, les forçats de la route et les porteurs d'eau, comme il dit, qui ont inspiré tant de chansons françaises. De Vive Voix spéciale JO, c'est déjà parti. Bonjour Michel Drucker.
Bonjour.
Alors avant de devenir l'animateur que l'on connaît bien, emblématique des variétés à la télé, beaucoup ne le savent pas, mais vous avez débuté en tant que commentateur sportif. Vous étiez déjà dans le poste télé en 1964 qui s'appelait l'ORTF et qui était en noir et blanc. Le président de la République, c'était le général de Gaulle. Et vous débutez à 24 ans. Vous êtes un jeune stagiaire au service des sports et vous débutez avec les JO de Tokyo en novembre 1964.
Hier, les membres de la délégation française des handicapés physiques ayant participé aux deuxièmes Jeux internationaux paralympiques qui viennent de se dérouler à Tokyo sont arrivés à Orly. Nous sommes allés les accueillir.
Monsieur Berthe, vous êtes le président de la Fédération des handicapés physiques de France. Les représentants français ont obtenu 13 médailles à Tokyo. Je pense que vous êtes satisfait du résultat.
Eh bien, je suis très satisfait parce que je crois que l'équipe de France s'est distingué particulièrement dans les disciplines où nous étions présentés. Et grâce à l'esprit d'équipe qui a régné tout au long des Jeux, nous avons, je crois, fait le maximum et je suis très heureux.
Voilà Michel Drucker, on vous voit interviewer à Orly les entraîneurs et les sportifs de retour des Jeux internationaux paralympiques de Tokyo. C'était il y a 60 ans. C'est vraiment votre première apparition télé ou pas ?
Oh oui, pratiquement. J'avais fait quelques apparitions avant dans l'émission Sport Dimanche, mais c'était une des premières fois où je quittais les studios de Radio Canada pour aller faire un duplex ailleurs.
Oui.
Et c'est très troublant parce que 60 ans après, les Jeux paralympiques ont pris une dimension gigantesque. On le verra dans quelques semaines sur toutes les antennes, mais à l'époque, on parlait très 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 peu des Jeux paralympiques. Très
oui,
peu.
Oui, c'est vrai.
D'abord, on n'avait pas d'image, puisqu'à Tokyo, il n'y avait pas de direct, évidemment, c'est du noir et blanc. Et c'est vrai que c'est mes tout débuts. J'ai fêté mes 60 ans de carrière au moment des Jeux paralympiques dans quelques semaines, vous voyez. Le compte est bon.
Le compte est bon. Il y a un autre direct qui a compté aussi, c'est dans l'émission Sport Dimanche, là on est en 65, et c'est le journaliste Roger Coudert qui vous présente.
Et nous allons retrouver un autre élève du collège de Sport Dimanche, Michel Drucker. Élève Michel Drucker, vous avez passé votre examen de passage, alors vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler.
Oui monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. À Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. 6 pays étaient aux prises, à noter que 4 nations, déjà représentées à Stuttgart, dans l'édition masculine, se trouvaient à nouveau en présence, les 2 Allemagnes, la Pologne, l'Union soviétique, les 2 autres qualifiés étant la Hongrie et la Hollande. Comme prévu, c'est l'Union soviétique qui l'a emporté avec 56 points devant l'Allemagne de l'Est, la Pologne, l'Allemagne de l'Ouest, la Hongrie et la Hollande.
Élève Drucker, on vous voit avec votre cravate de bon élève, vous étiez mort de trac, non ?
Oh, c'était, j'avais une crise de Parkinson en direct. J'avais pris mes fiches à bras-le-corps, ce qu'il ne faut jamais faire quand on débute à la télévision, il faut les mettre à plat. J'ai pris mes fiches à bras-le-corps pour donner les résultats sportifs, c'était interminable, ça durait entre 8 et 10 minutes, ce qui est considérable. Mm. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas assez de moyens techniques, donc on a annonné les résultats des différents championnats, et je m'accrochais surtout à ces résultats pour ne pas faire d'impair. Je ne voulais surtout pas dire, par exemple, que Saint-Étienne avait battu l'Olympique Lyonnais, alors c'était l'inverse, quand on sait la rivalité des deux clubs de Rhône-Alpes. Il ne fallait pas se tromper entre Saint-Étienne et l'OM, qui était déjà rivaux à l'époque. Donc, j'étais terrorisé, il y avait Léon Zitrone, quand j'ai coudé, comme vous allez l'entendre, c'était ma première grande apparition à la télé. Et le lendemain, quand je prenais mon autobus, c'était le 80, la plateforme Place de Clichy qui me déposait à l'angle de la rue Cognac-G, de l'autre côté de l'Allemagne. les Parisiens dans l'autobus se sont retournés. Ils ont commencé à faire volontairement trembler leur journal. Ils m'ont dit, ça va petit, ça va mieux qu'hier. C'était mon grand saut. C'est la première fois qu'on découvrait mon visage en gros plan à une heure considérable parce que Sport Dimanche, c'était entre 20h20. Le journal télévisé ne durait que 20 minutes au dimanche. Et 20h45, il n'y avait qu'une seule chaîne. Et ensuite, il y avait le grand film du dimanche soir. Ce jour-là, c'est la vache et le plaisirier avec Fernandel. J'ai donc débuté avant Fernandel à la télévision. Donc, tout le monde m'a vu. Et c'était mon baptême du feu. On en a parlé longtemps. On m'en parle encore aujourd'hui.
Bah, le journalisme sportif en direct, c'est sans filet. Il n'y avait pas de prompteur à l'époque. Pour vous, c'est la vraie école de la télé, la vraie école du journalisme.
C'est la meilleure école. D'ailleurs, ceux qui ont fait une longue carrière sont passés par là. Deniso, Gérard Rolls, Pro, journaliste sportif, Pascal. Le journaliste sportif, c'est une école extraordinaire parce qu'on ne connaît pas évidemment ce qui va se passer. Le scénario n'est pas écrit d'avance. Un match de foot, il peut y avoir des prolongations, ça dépend des compétitions. Un match de tennis, ça peut être 3-7, 4-5, 5-7. Donc on sait déjà, on sait comment ça va commencer, on ne sait pas comment ça va finir. Ouais. C'est du sans filet. Il n'y avait pas de prompteur, moi j'ai jamais eu de prompteur, ni d'oreiller. De toute façon, ça ne servait pas à grand-chose quand on est au bord d'un stade d'avoir une oreille ou d'avoir un prompteur. Donc c'est du sans filet, mais c'est la meilleure école.
Michel Drucker, vous vous définissez comme un fondu de vélo, on en reparlera tout à l'heure, et notamment du Tour de France. Le Tour de France, c'est forcément, dans l'imaginaire collectif, c'est le sport de la France populaire, hein, ça renvoie aux souvenirs d'enfance. Il faut rappeler aussi qu'à la grande époque, vous avez interviewé tous les cyclistes hein, des années 60, 70. Les cyclistes à l'époque, bah, ils venaient des milieux plutôt populaires aussi.
Ça continue encore, sauf qu'ils sont heureusement pour eux un peu mieux payés. Mais ils venaient de la France profonde, de la Bretagne profonde. Moi, je suis normand. La Normandie, ça a donné Jacques Anquetil. La Bretagne, ça a donné Bernard Hinault. C'est une terre de vélo, la Bretagne et la Normandie également. Et c'est vrai que le Tour de France, c'était une école extraordinaire. J'en ai suivi deux. C'est à l'époque où Greg LeMond a gagné deux Tours de France. Je faisais une chronique pour Le Parisien. Et puis, il y avait une émission... L'après-tour, il y avait un plateau après l'arrivée de l'étape. Et moi, j'y participais. Chancel l'a fait longtemps. Et moi, quand j'ai suivi le Tour de France, je choisissais pendant la course un malchanceux. Et je faisais venir le malchanceux de l'étape, celui qui avait eu du mal à terminer. Car je m'intéressais surtout au gros du peloton, plutôt au retardataire qu'au maillot jaune. Ça m'intéressait beaucoup plus de voir ce qu'on appelle les 100 grades, les forçats de la route. Personne ne peut gagner le Tour de France sans équipier. Ce qu'on appelait les 100 grades, les porteurs d'eau, ceux qui amènent de l'eau à la montagne, à leur leader, pour qu'ils terminent le mieux possible. Et c'est sur 175 coureurs du tour, c'était les 165 inconnus qui m'intéressaient.
Les 100 grades, parce que c'est quand même un des sports les plus difficiles, l'endurance, la souffrance.
C'est le sport le plus difficile. Ouais. Ceux qui nous écoutent et qui connaissent un peu le vélo, sache que c'est que d'être, je ne sais pas s'ils l'ont, mais moi j'ai fait deux fois le Mont Ventoux, j'ai fait mourir deux fois, donc c'était effrayant, mais je tenais à le faire. Maintenant je le fais, et je l'ai fait avec un vélo électrique plus tard, mais qui n'a jamais eu d'effrayant dans un col, que ce soit à 8 à l'heure, ou à 12 à l'heure, ou à 20 à l'heure, ne saura jamais ce que c'est que la souffrance qu'on a sur un vélo. Il recule les limites de la douleur. Si vous regardez la télévision à la Tour de France, on ne peut pas gagner le tour si on ne gagne pas dans l'école. Il faut être bon partout. Il faut être sur le plat, il faut être bon dans le contre-la-montre, au chrono, c'est quand on est tout seul, au chronomètre, et puis il faut être bon dans la montagne. Il faut être bon dans ces trois disciplines, mais je répète, on ne peut pas gagner le Tour de France sans avoir des équipiers. C'est pareil pour la télé. Moi, par exemple, je fais une trentaine de vivements dimanche par an. Là, je considère que c'est un Tour de France. J'ai 30 étapes. Et il faut essayer d'être bon à chaque fois.
C'est ça. Et vous n'êtes pas seul. Derrière vous, il y a toute une équipe.
Et j'ai également des équipiers, heureusement.
Michel Drucker, là, on est en 1974, dans une émission de télé que vous présentez. Et vous recevez le réalisateur Michel Audiard, qui, comme vous, est d'ailleurs un passionné de vélo.
Le bruit courait la semaine dernière à Saint-Léonard-de-Noblat que Poulidor se réserverait cette saison pour les Tours d'Espagne et de France et limiterait son calendrier. Interrogé par notre correspondant à Limoges, l'éternel second, qui espère bien devenir le perpétuel premier, a démenti catégoriquement ces rumeurs.
Si M. de Guermantes avait mis tant de hâte à me présenter, c'est que le fait qu'il y ait dans une réunion quelqu'un d'inconnu et une altesse royale est intolérable et ne peut se prolonger une seconde. C'était cette même hâte que Saint-Loup avait mise à se faire présenter à ma grand-mère.
Bon, ben, maintenant, assez pour la culture.
L'entraînement
un peu.
Ah, faire lire une page de Proust par Anquetil, fallait y penser.
Bah, récemment, j'ai appris que Dalida lisait Teller de Chardin. J'entends pourquoi je gèle.
Alors, pour expliquer à nos auditeurs, Michel Drucker, hein, qui n'ont pas forcément l'image, les références, Michel Audiard, le réalisateur, avec sa gouaille, qui lit le journal sportif L'Équipe, et puis Jacques Anquetil, le cycliste, qui lui lit un passage d'un livre de Marcel Proust. Voilà, preuve aussi que la culture et le sport ne sont pas irréconciliables. Hein.
Ah, les plus beaux papiers de l'histoire du journal sportif sont des papiers qui ont été faits par Blondin, par exemple, sur le Tour de France. Mais Michel Audiard connaît très bien le vélo, il livrait des journaux à ses débuts. Et c'est vrai que cette culture populaire a donné des grands journalistes. Le Tour de France a été jalonné pour extraordinaire, mais également d'auteurs qui adoraient ça. Il y a des acteurs également qui étaient fous de vélo, comme Jean Carmet. Et Michel Audiard est un des intellectuels, si j'ose dire, avec Blondin entre autres, qui connaissait le mieux le vélo. Il en connaissait un rayon, pour faire un jeu de mots à la Blondin. Et ça, Léonard de Nobla, ça me parle, puisque j'y suis allé, dans le Limousin, près de Limoges. C'était le fief Raymond Poulidor, qui avait des terres, qui faisait de la terre, car beaucoup de champions venaient de la France profonde, de la campagne profonde. C'est le cas du numéro 2 du Tour de France, qui s'appelle Thierry Gouvenou, que peu de gens connaissent, mais Thierry Gouvenou, c'est le fils d'un marchand de vélo de Vire, dans le Calvados, c'est là où j'ai grandi. Vire est célèbre par l'embrouille de Vire, et en bas de ma maison, il y avait un marchand de vélo tenu par la famille Gouvenou. Mon papa était leur médecin, et le fils Gouvenou, c'est lui qui fait le tracé du Tour de France. C'est le numéro 2, aux côtés de Christian Prudhomme. Et le Tour de France, c'est l'enfance de millions de Français, de millions d'auditeurs. Ce n'était pas le cas dans les années 50, c'était la radio. Mais c'est vrai que maintenant, avec Franck Ferrand, avec Jean-Paul Olivier, maintenant c'est une visite du patrimoine, c'est ça qui est magnifique. Grâce aux hélicos, grâce aux drones.
Grâce aux hélicos et aux drones qui effectivement donnent à voir un petit peu cette belle France pour tous ceux qui ne partent pas forcément et regardent la télé. Allez, on continue à parler vélo et télé dans De Vive Voix sur RFI. On parle sport et télé dans De Vive Voix spéciale JO avec l'animateur Michel Drucker. Michel, en 60 ans de carrière à la télé, au sport, variété, vous avez interviewé les plus grands artistes, chanteurs, comédiens ou sportifs. Honnêtement, sincèrement, quels sont les plus narcissiques entre tous ?
Alors, tous le sont un petit peu, parce que pour faire ce métier, il faut être un peu narcissique, hein, peut être un peu égocentrique, mais il y en a qui sont restés calmes. Les plus grands sont restés calmes. Céline Dion, que j'ai vu débuter, qui est une amie, je ne l'ai jamais vu avoir la grosse tête, je n'ai jamais vu se prendre pour quelqu'un d'autre. C'est une star, mais elle ne s'est jamais comportée en star. Johnny non plus, Aznavour non plus. Il y a des gens qui sont restés calmes dans toute leur carrière, et c'est à ça qu'on voit les carrières. Les carrières sont celles qui n'ont pas changé. Les gens, Adamo, qui a 80 ans cette année, il est le même qu'il était quand je l'ai connu. On a eu 20 ans tous les deux à Bruxelles. Et voilà. Julio Iglesias, qui est un ami aussi, qui était devenu une star mondiale, il n'a pas bougé. Ne parlons pas de Jean-Jacques Goldman, qui est l'exemple vraiment de quelqu'un qui n'a pas changé du tout. Et le vélo est une école d'humilité. Voilà pourquoi j'aime le sport. Ouais. Tous les sports.
Tous les sports.
Quand Mbappé doit tirer un pénalty devant la planète entière, eh ben, il faut qu'il soit bon. Ouais. Et s'il se rate, la planète entière voit qu'il s'est raté. Voilà pourquoi j'aime le sport, c'est une école d'humilité, c'est une école de modestie.
Et une école pour durer aussi, la longévité.
Ouais. Pour faire une carrière longue, il faut être endurant. Moi, je suis l'homme des longues distances. Moi, j'aime les carrières qui durent. Et pour ça, il faut doser ses efforts.
Et ça fait 60 ans que ça dure.
Et c'est pas fini.
Et c'est pas fini, dit-il. Michel Drucker, vous le savez mieux que moi, hein, le vélo a inspiré bien des chansons françaises. Je vous propose d'écouter un medley signé Sophie Jeannin.
Et de 1, 2, 3, et... Vélo va, vélo vole. La voix va, où vélo va. Vélo vire, vélo volte. Où va la vie? Vélo va.
Soir quand l'Italie est triste, elle ressemble à Rimini. Non, qu'est-ce qu'il t'a pris? T'allais mourir à Rimini.
Happy days but sad facing. Heaven knows I'm on the case. Oh, how could I forget to mention the bicycle?
Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins.
Dans le parc des Buttes Chaumont, un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement. Encouragé par son père et par sa maman, il va faire du vélo comme les grands. Il empoigne son guidon, c'est parti pour le grand frisson. Sans les petits trous qui stabilisent, va falloir qu'il improvise. Notre équilibriste s'élance sur la piste. Il tombe.
Bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle.
Michel Drucker, vous avez certainement reconnu Yves Montand, Ben Abar, Queen, Dick Hanagan, les Vampas, les Red Chili Peppers, qui tous ont chanté la chanson ou les champions, quelles que soient les générations d'ailleurs. Comment vous l'expliquez, ce succès, ce mariage entre la chanson et le vélo?
Quand on va sur un vélo, on est gai, on a envie de siffler, on voit la campagne qui défile. C'est vrai que le vélo a été la révolution pendant longtemps. Voir son vélo, quand j'avais 15 ans, que j'ai eu mon premier vélo après mon certificat d'études, c'était la liberté. Et des années après, le vélo a pris sa revanche sur les autos. Madame Hidalgo a fait ce qu'il fallait pour ça, et qu'on ne peut pas aller dans une ville maintenant sans voir des vélos. Les Hollandais, les premiers, ont donné l'exemple. Le vélo, c'est une source de liberté, c'est une source d'inspiration, c'est la joie de vivre. Quand on entend Yves Montand chanter à bicyclette, ça évoque plein de choses. Hein. Et puis Dassin a chanté les vélos. Le vélo, c'est une œuvre d'art. Un beau vélo, c'est magnifique. Les vélos maintenant sont sublimes. Les vélos électriques sont des merveilles. Ça, c'était le Covid. Hein. Le Covid a permis aux marchands de vélos de faire fortune. Et les gens ont découvert que maintenant, on pouvait aller partout sans souffrir, même si on ne donne pas un coup de pédale pendant l'année. Avec des petits moteurs maintenant et les vélos électriques, on va partout. Et c'est formidable parce qu'on peut monter les cols, même si on n'est pas un grand grimpeur, même si on n'est pas capable de faire 100 mètres dans le Tour de France. On monte tous les grands cols des Pyrénées, le Tourmalet. Non, on se sent fort sur un vélo. Et puis, quand il fait beau, le vélo, c'est les vacances. Le vélo, c'est les vacances, c'est la joie de vivre.
Les plaisirs simples.
Voilà, et puis c'est l'occasion de visiter le plus beau pays du monde qui est la France. Le nombre de pistes cyclables qu'il y a en France maintenant, c'est magnifique. On peut sillonner la France de part en part en vélo. Et c'est ça qui est magnifique. Vous faites un jour l'expérience de longer toutes les côtes de Vendée, du côté de la Baule, ou même les côtes de Bretagne ou la Provence. Il y a des pistes cyclables qui vous font traverser le pays.
Ouais.
D'aller en vacances en Provence avec mon vélo en partant de Paris.
Pendant
du jour de vacances et descendre en Provence à vélo en faisant entre 60-70 km par jour. En 10 jours, on fait Paris la Provence.
Voilà, on continue à parler vélo avec Michel Drucker dans De Vive Voix. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Drucker dans De Vive Voix sur RFI. On a parlé tout à l'heure de vos débuts en tant que commentateur sportif et de votre passion pour les cyclistes et le Tour de France. Mais pourquoi vous avez débuté sur le tard à faire du vélo à 48 ans, j'ai vu?
Oui, parce que je n'avais pas le temps, je faisais simplement l'été. Et puis, voilà, j'ai découvert le vélo sur le tard. J'avais fait quand j'étais gamin, puis après j'avais abandonné. j'allais faire du camping avec mon frère à vélo. Ouais. Et le vélo est venu plus tard, et avec des copains, avec Belmondo, on roulait à Longchamp. J'ai découvert ça un jour. En fait, ce qui m'a donné envie de faire du vélo, c'est que j'ai fait le Téléthon un jour. Je fais le Mont-Saint-Michel-Paris à vélo, 520 km, dans 20 heures de nuit, dans la pluie et le vent. J'ai cru que j'allais mourir, et puis finalement, j'ai fait ça, j'ai terminé, on a mis 21 heures pour faire le Téléthon. Et ça m'a donné envie de continuer, parce que tous ceux qui nous suivaient dans cette épreuve, on a roulé de nuit également, on était une vingtaine. Il y avait des anciens champions pour nous aider, car on a roulé beaucoup la nuit. Mont-Saint-Michel, Paris à vélo, c'est pas rien. Et puis, lors des plages du débarquement, tout ça. Et puis après, quand je me suis arrivé chez moi, à 4h du matin, en rentrant du Téléthon, quand je suis rentré, il m'a dit, mais tu t'es regardé dans la glace. J'étais méconnaissable, j'avais perdu 6 ou 7 kilos, j'avais des genoux creuses, j'étais hébété de fatigue, mais j'étais content. Et tous les suiveurs m'ont dit, si t'es capable d'avoir fait ça, ça veut dire une volonté pour faire du vélo. Alors j'ai continué, puis ensuite j'ai découvert la Provence à vélo, où je vais en vacances, j'ai fait le Ventoux, j'ai fait tout ça. Et puis maintenant c'est derrière moi, parce que j'ai eu un pépin cardiaque il y a 2 ans, oui, extrêmement sévère, qui fait que maintenant je ne peux plus faire du vélo, sauf chez moi. Parce que, et pas tout seul à l'extérieur.
Oui, bien sûr.
Comme je suis sous anticoagulant, si je tombe, je ferai une hémorragie interne. Ah. Donc maintenant, mon vélo, je le regarde. Et dès que j'ai envie de faire du vélo, ben, je monte sur mon vélo cardio, qui est le vélo que je fais pendant ma rééducation, et je fais mes 15 km par jour. Voilà. Et je suis content. Et je regarde la télé.
Michel Drucker, je disais, ça fait 60 ans que vous faites de la télé. Forcément, beaucoup de gens d'ailleurs se disent quelle longévité. Michel Drucker est presque né dans le poste de la télé. Hein.
Oui, un jour, je prenais le train, le TGV Avignon, où j'allais souvent dans la maison, et il y avait deux jeunes filles à côté de moi qui avaient découvert sur le magazine de la SNCF, en couverture, il y avait Christophe de Chavannes. Et j'ai entendu dire qu'elles avaient 18 ans. Et l'une dit à l'autre, disons, Magali, tu as vu de Chavannes toute notre jeunesse. Quand je suis arrivé à Avignon avant de descendre et continuer à marcher, je leur ai dit, non, vous entendez dire que de Chavannes, c'est de votre jeunesse. Alors, si de Chavannes, c'est plus de votre jeunesse, moi, je suis tout en camo, je suis des pyramides. Ah non, vous, c'est pas pareil, mais Michel Drucker, vous avez été vendu avec le poste.
On s'est été vendu avec le poste. Pour terminer, Michel Drucker, un petit quiz pour savoir quel type de sportif vous êtes au-delà du vélo, on a bien compris. Est-ce que vous préférez les sports collectifs ou les sports individuels?
Individuel et collectif. Le Tour de France, c'est individuel et collectif. On est tout seul sur son vélo, mais on a besoin d'équipiers.
L'essentiel pour vous, Michel Drucker, c'est de gagner ou de participer?
C'est de participer, parce que gagner, bon, pour gagner, c'est autre chose. Il faut être un champion pour gagner.
Votre rôle préféré, vous, au sein d'une équipe, ou une équipe de sport ou de télé, leader, compétiteur ou coéquipier?
Moi, j'étais coéquipier, j'étais équipier. Je ne me suis jamais pris pour leader, mais je me comporte toujours comme un équipier.
C'est ça. C'est quoi la plus belle valeur du sport, à vos yeux?
Le courage.
Le courage.
Le courage. Le courage et la solidarité.
La beauté d'un geste, pour vous?
La beauté d'un geste, c'est le revers de Federer.
Ah!
Quand on connaît un peu le tennis, le revers de Federer, c'est magnifique. Mais sinon, un coureur qui monte un col, debout sur les pédales pendant 15 km, sans avoir de souffrir, c'est magnifique.
Ah oui. Et enfin, Michel Drucker, vous allez regarder les JO, forcément, non?
Oui, bien sûr. Ah,
toujours fidèle au poste, ou même derrière ou dedans?
Oui, j'ai regardé les JO parce que c'était mes 64 Tokyo, et 2024 Paris, a marqué la fin d'un cycle pour moi. Et puis le service public a été magnifique. La retransmission des Jeux Olympiques pour les Jeux de Paris resteront dans l'histoire.
En tout cas, merci beaucoup, Michel Drucker, d'avoir été notre invité et d'avoir joué le jeu de vous raconter à travers le sport. Et bon JO, alors.
Oui, là, je vais retourner pédaler. Là.
Allez-y. Merci beaucoup, à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Au revoir.
On ne sait plus rien voir, mais plus le bord du trottoir. Quand tu commences à plus rien voir, mais plus le bord du trottoir. Dans tes jambes ça pique, ça fait des morsures. S'il y a du vent dans la plaine, il y aura des bordures. Il faut bien sucer la roue des fois, il faut bien sucer la roue des fois. Si tu distingues à peine ni le dérailleur ni la chaîne. Si tu distingues à peine ni le dérailleur ni la chaîne. Si tu fais l'élastique encore une fois, c'est que tu roules trop loin du mec qui est devant toi. Et il faut bien sucer la roue des fois, il faut bien sucer la roue des fois.
Severino, un fondu du vélo comme Michel Drucker. De vive voix, c'est bientôt fini. On se retrouve lundi à la même heure avec le danseur chorégraphe Mourad Merzouki. C'est lui qui a imaginé la danse des JO et la chorégraphie de l'équipe de France des natations artistiques pour l'épreuve du ballet libre. Et forcément, en clin d'œil à Pierre de Coubertin, le fondateur des JO, on a demandé à Mourad Merzouki si l'essentiel pour lui, c'est de gagner ou c'est de participer.
Ah, c'est de participer.
Un chorégraphe, c'est un leader, c'est un compétiteur ou c'est un coéquipier?
C'est un coéquipier.
Vous préférez les sports collectifs ou individuels?
Collectif.
C'est bien, au moins c'est carré. C'est quoi la beauté d'un geste pour vous?
C'est de pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Quand il touche le plus grand nombre, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'universel, de juste.
Et pour terminer, la plus belle valeur du sport à vos yeux?
Le côté rassembleur.
Toujours.
Ça rassemble.
Ça rassemble.
Ça met tout le monde d'accord, je crois.
Ouais, on en a bien besoin. Voilà, c'est un partageur, un rassembleur, Mourad Merzouki, le danseur chorégraphe qu'on retrouvera dès lundi dans De Vive Voix. Merci bien sûr à toute l'équipe olympique, Sophie Janin à la réalisation, Mehdi Jazeri et Chloé Gomez à la rédaction, en vous souhaitant un excellent week-end à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, c'est bien sûr le journal. À lundi.